Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. En Ituri, les activités ont repris normalement ce vendredi au centre de traitement d'Ebola à l'hôpital général de référence de Rouampara, situé à la périphérie de Bounia. Quatre malades qui avaient fui jeudi à la suite des tensions observées sur place sont finalement retournés dans cette structure sanitaire. Nous parlerons aussi du conflit de compétences entre deux services sur la délivrance des permis de construction dans la province du Haut-Katanga. Depuis plusieurs années, la division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga délivrait les permis de construction. Mais à partir de 2022, il y a eu la création du guichet unique de délivrance de permis de construction à RDC à la suite d'un arrêté ministériel. Face à la menace de la maladie à virus Ebola, la Tchopo se barricade sur les plans sanitaires. En raison des intenses échanges commerciaux et sociaux avec l'Ituri voisine, le gouvernement provincial passe à l'offensive. Quelles sont les mesures concrètes arrêtées pour bloquer le virus? Élément de réponse avec le ministre provincial de la Santé de la Tchopo. Encore une fois, bonjour à tous. En Ituri, les activités ont repris normalement ce vendredi au centre de traitement d'Ebola à l'hôpital général de référence de Rouampara, situé à la périphérie de la ville de Bounia. Quatre malades qui avaient fui jeudi à la suite des tensions observées sur place sont retournés dans cette structure sanitaire. Le chef du groupement des Chari indique que le calme est également revenu dans les milieux après un meeting populaire organisé jeudi pour sensibiliser la population autour de la réalité de cette épidémie et la nécessité de respecter les mesures de prévention. Le reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Jean Gandou Kabungo.
Le centre de traitement d'Ebola de Rouampara fonctionne de nouveau normalement depuis jeudi soir, affirme le chef de groupement Chari. Le personnel médical ainsi que quatre cas suspects qui avaient pris la fuite jeudi à la suite des tensions enregistrées dans cette structure sanitaire ont regagné le site de traitement. Des sources locales rapportent que les patients sont désormais pris en charge dans un bâtiment de l'hôpital après l'incendie des deux tentes qui servaient des lieux d'isolement des malades dans cette structure médicale. Toutefois, les autorités locales demandent aux autorités sanitaires d'accélérer les travaux de construction du centre de traitement afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients qui affluent dans cette zone. Pour prévenir de nouvelles tensions, le chef local a organisé un meeting populaire afin de sensibiliser la population sur l'existence réelle de cette épidémie qui a déjà causé plusieurs décès dans le milieu. Il a également appelé les habitants à respecter strictement les mesures barrières, notamment la distanciation physique, le lavage régulier de mains et l'interdiction de tout contact avec le corps des victimes. Du côté des autorités sanitaires, aucune réaction officielle n'a encore été enregistrée jusqu'à ce vendredi.
Au Nord Kivu, le diocèse catholique de Butembo-Beni se mobilise pour la prévention contre Ebola. Dans un communiqué pastoral publié le 20 mai, l'évêque du diocèse, Mgr Sikuli Paluku Melchisedek, appelle les fidèles et la population à appliquer rigoureusement les mesures de santé publique afin de limiter la propagation du variant Bundibugyo du virus Ebola. Signalé en RDC et dans l'Ouganda voisin. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
Dans son communiqué pastoral, Mgr Sikuli Paluku Melchisedek rappelle que les variants Bundibugyo du virus Ebola ne disposent ni de vaccins ni de traitements spécifiques, d'où la nécessité d'une vigilance accrue et du respect strict des mesures barrières. Il insiste sur les rôles des communautés religieuses dans la sensibilisation et la prévention en fait de freiner toute propagation de la maladie dans les zones à risque. L'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni demande la réinstallation des dispositifs de lavage des mains dans les lieux de culte et recommande la présence d'agents chargés de veiller au respect des règles d'hygiène, l'usage de l'eau chlorée, de l'eau de Javel, le port du masque ainsi que les désinfectants sont également encouragés. Le prélat annonce par ailleurs la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'échange des mains comme signe de paix durant les célébrations eucharistiques. Cette mesure vise à réduire les contacts physiques directs dans un contexte d'alerte sanitaire renforcée. Beni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Restons en Nord Kivu. Les postes frontières entre Goma et Gisenyi sont désormais totalement fermés à tout mouvement migratoire. Bien qu'aucune communication officielle n'ait encore été faite, plusieurs sources concordantes indiquent que le gouvernement rwandais aurait renforcé les mesures, celles de fermeture partielle déjà appliquées depuis dimanche dernier aux deux principaux points de passage, la Petite et la Grande Barrière, une situation qui perturbe davantage les activités transfrontalières. Un reportage de Bernadette Nyangui.
Travailleurs, élèves et petits commerçants transfrontaliers ont vu depuis ce vendredi matin leur dernier espoir d'amélioration de la situation s'envoler. Les femmes et petites commerçantes de poules, par exemple, qui espéraient un soulagement grâce à des solutions alternatives impliquant des transporteurs rwandais, s'inquiètent désormais d'une attente prolongée. Berta Nabintou, l'une d'elles, témoigne.
Nos partenaires rwandais, ce sont eux qui nous envoient la marchandise. Tous les jours, on nous dit d'attendre, mais on ne reçoit rien. Aujourd'hui, on nous avait demandé d'attendre les camion, mais il n'est jamais arrivé. Franchement, ça augmente encore notre souffrance.
Par ailleurs, certains ressortissants congolais vivant à Gisenyi que nous avons joints ce matin affirment que le gouvernement rwandais a procédé à la fermeture totale de ses frontières avec la République démocratique du Congo, alors que depuis mardi, les élèves des étudiants de Goma ainsi que des travailleurs transfrontaliers était encore autorisé à traverser sous strictes conditions. Ce vendredi matin, tout accès est totalement suspendu, sans indication sur la durée de cette mesure, en l'absence de communication officielle. Rappelons que ces restrictions sont en vigueur depuis dimanche, à la suite de la confirmation d'un premier cas d'Ebola à Goma.
La province du Haut-Uele enregistre désormais l'état de prévalence du VIH-Sida le plus élevé du pays, atteignant 7,4% selon une enquête organisée en 2023-2024 selon la coordination provinciale du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Entre pesanteurs coutumières, essor des sites miniers et rupture totale des stocks des préservatifs depuis 2 ans, le PNMLS se retrouve totalement démuni. Les coordonnateurs de cette structure lancent un cri de détresse aux autorités. Le point avec Jacques Moukonkole.
Le Haut-Uele fait face à une crise sanitaire majeure. La province détient désormais le triste record du taux de prévalence du VIH-Sida, le plus élevé de la République démocratique du Congo, culminant à 7,4%. Un chiffre alarmant qui s'explique par une combinaison de facteurs culturels, économiques et structurels, comme nous l'explique Arthur Lissako, coordonnateur du programme national multisectoriel de lutte contre le Sida.
Ici, avec les phénomènes Sorora, Levira et consorts, ça c'est d'abord ce qui est dans la coutume. Et puis, avec la présence de d'un grand nombre de foyers miniers, il y a un nombre de gens qui n'ont pas reçu le message de protection. Et avec les vagabondages sexuels et avec le grand nombre de carrés miniers.
Le coordonnateur du PNMLS Haut-Uele lance un cri de détresse aux autorités du Siro et de Kinshasa. Aujourd'hui, ce sont plus de 3 millions d'habitants du Haut-Uele qui se retrouvent directement exposés et menacés par la progression de la pandémie, déclare Arthur. Arthur Lissako, Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Je le disais en titre, province du Haut-Katanga, conflit de compétences entre la division provinciale de l'urbanisme et le guichet unique de délivrance des permis de construction à RDC GUPEC. Les agents de cette division accusent le GUPEC d'empiéter sur les attributions de leurs services. Faux, rétorque le directeur provincial du service incriminé. Il indique que le GUPEC est venu remettre de l'ordre dans ces secteurs. Conséquence, les deux services délivrent parallèlement les permis de construction et cette situation crée la confusion au sein de la population de la ville de Lubumbashi. Les explications avec Paul Munanga.
Depuis plusieurs années, la division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga délivrait les permis de construire. Mais à partir de 2022, il y a eu la création du guichet unique de délivrance des permis de construire en RDC à la suite d'un arrêté ministériel. Le directeur provincial de ce guichet unique dans le Haut-Katanga annonce que son service est venu remettre de l'ordre dans ce secteur. Souviens Kisimba.
Le GUPEC est venu combattre tout ce qui était comme antivaleur. Le GUPEC est venu mettre de l'ordre dans l'octroi
pas de permis. La plupart de ceux-là qui construisaient n'avaient pas même le permis. Même la procédure était difficile pour avoir le permis de construire. Mais aujourd'hui, avec la création des GUPEC, les gouvernements ont facilité les choses pour avoir ces permis.
De leur côté, les agents de la division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga accusent les GUPEC d'empiéter sur les attributions de la division de l'urbanisme. Huguen Tchiboui est membre de la délégation syndicale de cette division provinciale.
Il y a eu une réforme au sein de notre ministère, on a créé un guichet. Mais il est inadmissible qu'un guichet puisse être considéré comme un service d'assiette. Ils se disent eux-mêmes établissements publics, dotés d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Nous assistons à de l'urbanisme parallèle, parce que GUPEC est en train de prendre les attributions de l'urbanisme.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Par ailleurs, manger à sa faim devient de plus en plus difficile pour de nombreuses familles congolaises. Sur les marchés, le prix des produits alimentaires continue de grimper pendant que plusieurs provinces restent confrontées à l'insécurité alimentaire malgré les immenses terres agricoles dont dispose la République démocratique du Congo. Cette situation préoccupante était au cœur de la séance plénière de ce jeudi au Sénat. Les sénateurs ont auditionné le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Muindo Nzangi, dans le cadre d'une question orale avec débat initiée par les sénateurs Wilki Ichundala Asang. Les détails avec Grace Amzati.
À travers cette démarche, le Sénat voulait obtenir des réponses sur les difficultés persistantes du secteur agricole congolais, alors que plusieurs provinces restent confrontées à l'insécurité alimentaire et à la hausse des prix des denrées de base. Le sénateur Wilki Ichundala Asang a demandé au gouvernement d'expliquer les mécanismes mis en place pour relancer la production agricole nationale et réduire la dépendance alimentaire extérieure de la RDC. Il a également insisté sur l'amélioration des routes de dessertes agricoles, l'accès aux semences, aux fertilisants, à la mécanisation ainsi qu'au financement du secteur. Face à ces préoccupations, le ministre Muindo Nzangi a présenté les orientations du gouvernement pour moderniser l'agriculture congolaise. Selon lui, un document stratégique a été élaboré autour des 5 piliers. Les semences, les fertilisants et pesticides, la mécanisation agricole, l'encadrement des agriculteurs ainsi que les stockages, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le débat qui a suivi a permis à plusieurs sénateurs de faire remonter les réalités vécues dans leurs provinces respectives avec une même conséquence, la hausse continue des prix des produits alimentaires et la faim qui touche de nombreuses familles congolaises.
Restons dans la capitale. Les beignets font partie des aliments les plus consommés au quotidien. Vendus à chaque coin des rues, dans les marchés ou aux abords des écoles, ces pâtisseries constituent une source importante de revenus pour de nombreuses femmes. Cependant, derrière cette activité de subsistance, les conditions de préparation et de vente suscitent des inquiétudes, notamment en ce qui concerne le respect des règles d'hygiène. Reportage signé Joyce Mansanka.
Dès les premières heures de la matinée, plusieurs vendeuses s'installent à côté de la route avec des bassins de beignets encore chauds. Entre la poussière, la fumée et les va-et-vient des passants, certaines exercent leur activité dans des conditions difficiles. Pour beaucoup, ces commerces permettent une source essentielle de revenus leur permettant de répondre aux besoins de leur famille, parfois à proximité des caniveaux ou dans des environnements peu salubres.
La principale difficulté est qu'elles viennent régulièrement nous déloger de l'endroit où nous faisons notre travail.
Malgré ces conditions, de nombreux clients continuent d'acheter ces beignets, attirés par leur prix accessible et leur disponibilité dans plusieurs quartiers de la capitale.
Tous les endroits qui ne sont pas propres, surtout avec la poussière et les mouches. Mais les gens continuent quand même d'acheter.
Cependant, les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. Ils mettent en garde contre les risques sanitaires liés à la consommation d'aliments exposés à la poussière et aux mouches. Jonathan Tubango, spécialiste en santé publique.
Les aliments mal protégés peuvent transmettre des microbes et provoquer certaines maladies digestives comme la diarrhée ou la typhoïde.
Entre nécessité de survie pour les vendeuses et préoccupations sanitaires pour le consommateur, la vente de beignets reste une activité largement répandue à Kinshasa.
Arrivé à la fin de son mandat de 4 ans en RDC, le représentant spécial adjoint de la MONUSCO et coordonnateur résident humanitaire assure de l'engagement de l'ONU aux côtés du gouvernement pour la restauration de la paix. Bruno Lemarquis a fait cette affirmation au sortir d'une visite d'au revoir ce jeudi à Kinshasa au ministère des Droits Humains. Ce diplomate tunisien a également insisté sur la mise en œuvre des différents processus de paix en faveur du retour de la stabilité en RDC. Les propos de Bruno Le Marquis, recueillis par Blaise Ndonga Lamayanda.
La collaboration entre les Nations Unies et notamment le Bureau conjoint des droits de l'homme, BCNUDH, avec ce ministère, c'est main dans la main. On ne peut qu'espérer que tous les processus diplomatiques en cours, les processus politiques que vous connaissez bien, le processus de Washington, le processus de Doha, le rôle de médiation de l'Union africaine, avec l'appui des Nations Unies, portent leurs fruits. Ces négociations ont lieu actuellement. Pour l'instant, il y a toujours, comme on le sait, un décalage entre les discussions au niveau de ces différents processus, entre les accords qui ont déjà été signés et la réalité sur le terrain, puisqu'il y a encore beaucoup de zones de conflit. Le mot dans la bouche de beaucoup de Congolais, à l'Est, c'est Amani, tout le monde veut la paix. La communauté internationale est pleinement engagée. Il faut l'application des résolutions qui sont passées aussi au niveau du Conseil de sécurité. La RDC est très attentive à l'application notamment de la résolution 2773 qui a été passée en février 2026, un mois après la chute de Goma et de Bukavu. Cette résolution est très claire, cette résolution dit tout, mais cette résolution pour l'instant est insuffisamment appliquée.
Au cours de cette rencontre, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a également insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de reconnaître les crimes commis en RDC comme des actes de génocide. Au Nord Kivu, avant d'aller plus loin, des violents combats se poursuivent ce vendredi dans les territoires de Masisi. La rébellion de l'FCM23 et la coalition de Wazalendo alliée au FARDC s'affrontent pour le cinquième jour consécutif. Selon plusieurs sources locales, les affrontements se concentrent actuellement sur les axes Katoy, Rubaya et Ufuamandu, Ngungu, dans les secteurs de Katoy et la chefferie de Baoundé. Les détails avec vous, Christian Makasinga.
Des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus depuis tôt ce vendredi dans le groupement des Kibabi, mais aussi dans la chefferie des Baoundé, où une coalition de groupes Wazalendo alliés aux FARDC a lancé des attaques simultanées contre l'opposition de l'AFC-123. D'un côté, la coalition de groupes Bareko, dirigée par un chef connu sous le nom de Kigingi, a attaqué la localité de Shugi sur l'axe Kinigi-Kavuta dans le groupement de Kibabi à environ 30 km de la cité minière de Rubaya. De l'autre, une alliance de combattants Maïmaï Lamuka et du groupe des Mutayomba a mené une offensive sur l'axe Kajovu-Maïga en direction de Ngungu dans le groupement d'Ufamandu. Ces combats qui entrent ce vendredi dans leur cinquième jour provoquent une vive psychose dans le secteur de Katoï et Osobunyongu ainsi que dans la chefferie des Baoundé. Après avoir repris plusieurs villages ces derniers jours, des sources indiquent que le combattant Wazalendo aurait été repoussé jeudi soir par l'AFC-123 qui aurait reconquis les localités des Gasake, Kinigi et Kaniro à l'issue des violents affrontements. Cependant, les Wazalendo maintiendront encore leur présence à Katoï Centre, Luke, Kaseni et des localités environnantes. La situation demeure donc confuse et très volatile dans ces zones, aujourd'hui en grande partie vidées de leur population civile qui ont fui les violences.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient. En tant que médiateur, le Pakistan devrait envoyer son chef de l'armée, Asim Munir, à Téhéran pour discuter avec des responsables iraniens. De son côté, Israël continue ses opérations au Liban malgré les cessez-le-feu en vigueur. L'armée israélienne dit avoir tué 2 personnes dans le sud du pays ce vendredi 22 mai au matin, non loin de la frontière. Un responsable émirati estime à 50-50 les chances pour les États-Unis et l'Iran de trouver un accord permettant de débloquer les détroits d'Hormuz.
L'invité.
Face à la menace de la maladie à virus Ebola, la Chopo se barricade sur les plans sanitaires. En raison des intenses échanges commerciaux et sociaux avec l'Ituri voisine, le gouvernement provincial passe à l'offensive. Le ministre provincial de la Santé a présidé mardi dernier une réunion d'urgence avec les cadres de la division provinciale de la Santé et les partenaires techniques pour verrouiller nos frontières intérieures. Quelles sont les mesures concrètes arrêtées pour bloquer le virus? Élément de réponse avec le ministre provincial de la Santé de la Chopo. Le docteur Simo Bokongo répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Monsieur le ministre provincial de la Santé, bonjour. L'actualité sanitaire nous oblige à tourner nos regards vers l'Ituri voisine. La Chopo et l'Ituri partagent d'intenses échanges commerciaux et sociaux qui lient les niveaux de risque d'importation du virus à Kisangani et dans les territoires voisins. voisins.
Je ne peux pas vous cacher, ce niveau de risque est très élevé. À Kisangani, chaque jour, entre 150 véhicules en provenance de l'Ituri, y compris les bus qui transportent des centaines de personnes. Donc, par rapport à la voie RN4, l'exposition de Kisangani est très élevée et le risque est très, très majeur. Deuxièmement, nous avons la voie aérienne. Comme vous le savez, il y a un mouvement intense d'aviation entre Kisangani et la ville de Bunia. Et chaque jour, il y a des aéronefs qui quittent Bunia jusqu'à Kisangani et qui transportent des dizaines de passagers et des marchandises. Donc, l'exposition ou le risque de contamination ou de l'importation de la maladie dans la ville de Kisangani est vraiment très, très élevé.
Face à cette menace invisible mais réelle, quelles sont les mesures de contingence immédiates que le ministère de la Santé a mises en place au point d'entrée et des contrôles clés entre l'Ituri et la Tchopon?
Au niveau des portes d'entrée, il faut constituer des barrières sanitaires. Et pour checker tout le monde qui quittera l'Ituri pour entrer dans le territoire de Bafouassende et tout le monde qui va entrer dans la ville de Kisangani. Et là, on va mettre des thermomètres électroniques ou à laser pour détecter si les passagers ne font pas la fièvre. Il y a le dispositif de lavage de mains à ce niveau-là, notamment à Vakoubi et au PK Fin. Et ces mesures-là doivent être exportées jusqu'au niveau des grandes institutions, des écoles et partout où les gens vont se rencontrer, comme dans des grands marchés, ainsi de suite. Troisièmement, au niveau de l'aéroport de Bangoka, on doit aussi mettre des mesures de sécurité très, très strictes, notamment pour les passagers en provenance de l'île.
Docteur Simon Bokongo, nos structures de santé locales sont-elles prêtes à détecter, isoler et prendre en charge un éventuel cas suspect?
Détecter, non, puisque pour faire la détection, prendre la température et connaître que non, les malades fait la fièvre, les malades ont la diarrhée, les malades sont fatigués, les malades font des hémorragies. À ce niveau, mais les diagnostics, on doit voir, envoyer au laboratoire. Mais nous pouvons déjà détecter les cas suspects qui présentent la fièvre, la diarrhée, les vomissements, une faiblesse généralisée, en dernier lieu, les hémorragies. Donc, nous pouvons diagnostiquer à partir des signes cliniques les gens qui souffrent de la maladie à virus Ebola ici à Kisangani. Mais la confirmation des cas jusqu'à maintenant, ça se fait à Tchassa, à l'INERB. Et on a déplacé aussi certains laboratoires qui seront installés à Mungwalu et à Bunia ainsi qu'à Goma pour la détection des virus dans le sang de nos malades.
Les intrants et équipements de protection individuelle sont-ils disponibles?
On a lancé un appel et l'OMS nous promet déjà avoir tous ces équipements pour les amener au site le plus avancé, c'est-à-dire qu'il y a AVAP. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore été installés là où ils devraient être et les déploiements vont commencer dès demain.
Kisangani ou la Tchopo est-elle déjà touchée par le virus d'Ebola?
Non. Jusqu'à maintenant, les gens ont écrit cas suspect ainsi de suite, mais nous n'avons pas encore été saisis officiellement dans les structures appropriées de la suspicion des gens qui sont malades du virus d'Ebola.
On sait que la rumeur et la résistance sont des alliés du virus. Quel message lancez-vous aux leaders communautaires et religieux pour barrer la route à la désinformation?
La désinformation commence par l'ignorance de la maladie et la propagation des fausses alertes. Donc, ou la négation de la maladie. Ça, ce sont les trois niveaux de la désinformation. Alors, nous nous adressons aux églises. Communautaires et religieuses doivent donner des informations vraies. Et les informations vraies ne seront délivrées qu'à travers la déclaration de notre gouverneur de la province de la Tchopo, la déclaration officielle de l'épidémie par le ministre national et la déclaration ou les informations qui proviendront du CPC ou du ministère de la Santé. Donc, ce sont ces informations, ce sont ces déclarations qui seront mises à la disposition des leaders communautaires pour qu'elles soient transmises au niveau de la population. Donc, éviter la négation, éviter les exagérations, éviter de confondre Ebola avec des possessions démoniaques ou diaboliques.
Monsieur le ministre Dr Simon Bokongo, merci.
Merci beaucoup, monsieur le
C'était donc notre invité, le ministre provincial de la Santé de la Tchopo, le docteur Simon Bokongo, qui répondait aux questions de Jacques Moukonkole. Voilà qui met fin à ce journal préparé pour vous par Jean-Gandou Kabongo et mis en ordre par Pierre Diassinois. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.